dernière partie de la Grande Table, Caroline Brouet.
Et oui, les choses bougent en ce moment, en sciences sociales, et en particulier en histoire, comme l'a montré récemment Patrick Boucheron, nouvellement nommé au Collège de France dans sa leçon inaugurale, comme le montrent des essais comme ceux d'Yvan Jablonka, comme le montrent également des essais comme celui qu'a consigné nos deux invités, puisqu'ils sont deux aujourd'hui, pour une histoire des possibles, Quentin Deluermoz et Pierre Singaravelou. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et bienvenue. L'un, Quentin Deluermoz, est maître de conférences en histoire à l'Université Paris 13. L'autre, Pierre Singaravelou, est professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et vous signez ensemble ce livre, Pour une histoire des possibles, analyse contrefactuelle et futur non advenu. Nous allons en parler tout de suite. C'est un livre édité par Le Seuil. Et pour en discuter avec vous, pour vous poser des questions, à nos côtés, nous avons proposé au professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Frédéric Savicky, de nous rejoindre. Cher Frédéric, bonjour.
Bonjour.
On connaît une célèbre pensée de Pascal, le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la Terre aurait changé. On connaît moins celle que vous avez citée, choisie de mettre vous en exergue, qui est une pensée de Nietzsche, qui ouvre votre ouvrage. La question « Que se serait-il passé si cela et cela n'avaient pas eu lieu » est presque unanimement regardée avec défaveur. Et cependant, c'est précisément cela qui est la question cardinale. Tout votre ouvrage est là, mais on aurait pu choisir la pensée de Pascal, n'est-il pas ?
Oui.
Quentin Deluermoz.
Oui, en fait, cette histoire des possibles est jalonnée de grandes formules, d'une certaine manière. Donc on pense au nez de Cléopâtre. On pense à cette citation de Nietzsche. On connaît aussi les réflexions de Raymond Aron sur l'illusion rétrospective de la fatalité. Bref, tous ceux qui ont essayé de réfléchir à une histoire qui ne soit pas uniquement linéaire, c'est-à-dire qui n'aille pas tout droit, qui laisse sa place aux opportunités, aux alternatives, aux choix, aux luttes, en général, ont été porteurs d'une de ces formules très contrefactuelles qu'on a cherché et étudié dans ce livre.
Porteur de formules, mais ça n'est pas suffisant puisque vous montrez donc que ce n'est pas nouveau, cette démarche contrefactuelle, mais qu'en revanche, toute cette histoire ou cette façon de faire de l'histoire a été accompagnée, d'ailleurs Nietzsche le dit, de défaveur, c'est-à-dire qu'on a considéré ou regardé cette façon de faire de l'histoire avec un mauvais œil, en considérant que c'était pas sérieux, en gros, si ça n'avait pas eu lieu. Oui, ben, le problème c'est que ça a eu lieu, Pierre Singaravelou. Qu'est-ce que votre histoire à vous apporte de sérieux?
Alors d'abord peut-être qu'il faut dire un mot de la défaveur dont souffre cette histoire. Cette défaveur, elle est très française. Hein. Sans vouloir essentialiser une tradition intellectuelle française, il faut dire qu'elle trouve sa source, disons, à la fin du 19e siècle, avec l'école méthodique en histoire, qui se rapproche de la méthode allemande, et donc d'une histoire scientifique, et donc qui rejette l'histoire romantique, l'histoire littéraire. Et donc ça va être confirmé par Marc Bloch, qui considère que cette question contrefactuelle est totalement vaine. Et puis enfin, en France, jusqu'à aujourd'hui, on peut considérer que cette défaveur est liée, au fond, à la place du récit national dans le débat public. En effet, on ne joue pas, il ne faut pas jouer avec le récit national en France. C'est une question, c'est un objet de tension permanente qui empêche d'une certaine façon le jeu contrefactuel et donc la réflexion contrefactuelle.
Vous dites récit national, ne serait-il pas plus honnête, d'une certaine façon, d'être beaucoup plus général que ça? Est-ce que ce n'est pas tout simplement le problème du statut du fait en histoire ou de la vérité en histoire? On considère quand même normalement en histoire, là je me fais volontairement l'avocat du diable pour aller vous chercher un peu, mais on n'invente pas en histoire, on n'est pas dans le domaine de la spéculation. Donc mettons un instant le récit national de côté. Est-ce que ce n'est pas le fait qui pose problème ici?
En fait,
Quentin Deluermoz.
Ce qui gêne une bonne partie des historiens, c'est une certaine forme d'histoire contrefactuelle, c'est-à-dire celle qui va bifurquer bien au-delà du point, de ce qu'on appelle le point tournant, et qui va le faire de façon romancée, c'est-à-dire ce qu'on appelle les uchronies. Et en gros, si Napoléon avait remporté Waterloo, qu'est-ce qui se serait passé? Puis on imagine une Europe. Bon, ça évidemment, ça n'intéresse pas du tout l'historien. Maintenant, nous, ce qu'on voulait montrer dans le livre, c'est que lorsqu'on étudie le passé, ce passé est riche de potentialités et que ces potentialités peuvent être étudiées très sérieusement à partir d'archives. C'est-à-dire qu'un des messages du livre, c'est de dire que le possible fait partie des faits qu'étudie l'historien. Et on a une, puisqu'on parlait des citations en ouverture de discussion, la grande citation qu'on oppose à l'histoire contrefactuelle, c'est celle d'un historien allemand qui s'appelle Ranke. Il faut faire l'histoire telle qu'elle a été. On s'est un peu amusé. Dans le livre, on a mis cette citation juste en dessous d'un minute du même Ranke qui dit, en gros, si tel événement n'avait pas eu lieu dans l'histoire moderne de l'Allemagne, l'histoire de l'Europe aurait été complètement changée. Et il développe ce raisonnement-là. C'est-à-dire que même le père de l'histoire objective allemande fait des contrefactuels pour évaluer correctement les événements qu'il étudie.
En quoi précisément, quand même, est-ce que vous pouvez préciser la manière, ce que ça apporte à l'histoire, d'intégrer aussi les potentialités de l'histoire qui ne s'est pas produite, très concrètement? Est-ce que c'est pour simplement donner une autre vision de l'histoire, ou est-ce que ça permet aussi à la recherche historique d'être plus approfondie, et de quelle manière?
Pierre Singaravelou.
Oui, pour préciser rapidement, en fait, on considère que chaque fait est entouré d'un halo, un halo de possibles, et donc, comme Quentin l'a dit très justement, ces possibles appartiennent au réel qui intéresse l'historien. Alors, ces possibles peuvent être, par exemple, les futurs espérés, les futurs craints par les acteurs du passé, des formes d'anticipation. Et donc, ces anticipations, ces futurs craints espérés, ont un impact sur la façon dont ces acteurs ont agi, ont pensé, ont anticipé le futur.
C'est une valeur explicative de ce qui s'est passé, des décisions qui sont prises, de
exactement,
manière dont l'opinion.
Oui, donc on a développé tout un tas d'exemples. Et alors la particularité de la proposition que nous avons formulée, c'est que elle s'ancre dans l'étude des archives. Et donc, par exemple, nous avons mené plusieurs études de cas. Nous sommes intéressés à la guerre des boxeurs. Et nous avons revisité cette histoire de la guerre des boxeurs en 1900. En deux mots, la guerre des boxeurs, c'est l'histoire du monde entier quasiment qu'il s'allie contre les boxeurs des artisans, des paysans chinois en 1900 qui se rebellent contre la présence étrangère et le christianisme. Et nous sommes intéressés au fond au raisonnement contrefactuel formulé par les acteurs eux-mêmes. Et nous sommes rendus compte que les Européens, les Occidentaux, pendant la guerre des boxeurs, ne cessent de raisonner de façon contrefactuelle en craignant une victoire des Chinois, alors que ce sont les Occidentaux qui ont fini par gagner. Mais en réalité, on se rend compte que cette victoire, en fait, est en réalité une non-défaite. L'événement, ça n'est pas la victoire, c'est la non-défaite, parce que les Occidentaux ont failli perdre cette guerre des boxeurs à plusieurs reprises. Et donc la question contrefactuelle qui serait, et si les Chinois avaient remporté la guerre des boxeurs, eh bien nous pousse à restituer en fait les capacités d'action des Chinois qui avaient les moyens de remporter en réalité cette guerre et qui en réalité ont décidé à ce moment-là de ne pas faire la guerre, pour la plupart des gouverneurs généraux chinois de cette époque, faire la guerre aux alliés. Et alors l'autre intérêt pour nous, c'est de revisiter les archives. Ça, c'est très intéressant, puisqu'on s'est rendu compte que, eh bien, une partie des Chinois eux-mêmes ont considéré qu'ils avaient gagné cette guerre, à travers notamment tout un tas de productions d'écrits, de gravures, de type contrefactuel, qui représentent au lendemain de la guerre des boxeurs, des victoires imaginaires, des victoires contrefactuelles des Chinois contre les Européens, contre les Occidentaux. Et donc ça nous conduit au fond à revisiter, là encore, les catégories traditionnelles de l'entendement de la guerre, qui départagent clairement les vainqueurs et les vaincus. Eh bien, au lendemain de la guerre en 1900, beaucoup de Chinois considèrent qu'ils ont gagner cette guerre. Et l'historien doit prendre en considération cette perception qui est très forte et qui encore aujourd'hui, eh bien, marque l'imaginaire historique chinois dans son rapport avec les puissances étrangères.
Mais on risque de ne plus rien y comprendre.
Alors non, puisque précisément la caractéristique de cette histoire contrefactuelle, c'est qu'elle se fonde sur des archives. Hein. Et donc, il ne s'agit pas là de spéculation vaine, d'imagination délirante, mais tout simplement de restituer ces futurs espérés craints par les acteurs.
Donc il n'y a pas une seule histoire. D'autres histoires ou d'autres visions de l'histoire étaient possibles ou sont encore possibles. Quentin Dullermoz.
Oui, mais dans le cadre de l'exemple chinois que vient de développer Pierre, c'est très net. C'est que on voit bien que du côté chinois, il y a une décision de ne pas faire la guerre parce que dans une lecture plus confucienne du pouvoir, il faut plutôt préserver les équilibres qu'aller au combat. Donc il y a toute une autre histoire chinoise et moins européocentrée qui se profile ici. Et le contrefactuel peut nous aider d'une certaine manière à sortir des catégories dans lesquelles on se coule naturellement.
Ça n'a pas de côté.
Exactement. Tout à fait. Ça permet de prendre en compte d'autres regards sur l'histoire, donc de l'enrichir.
France Culture, la grande table, Caroline Brouet.
Avec nos deux invités aujourd'hui, deux historiens, Quentin Deluermoz et Pierre Singaravelou, tous les deux auteurs de Pour une histoire des possibles. Autour de la table pour vous interroger à nos côtés, le professeur de sciences politiques, Frédéric Savy.
Bonjour, merci Caroline. Bon, peut-être quand même dire que c'est un livre à la fois important et très riche qui brasse beaucoup de choses.
Il ouvre des possibles, voilà. Vous allez dire.
Il ouvre beaucoup de possibles, ce livre, parce que, bon, il y a ce qui vient d'être dit, mais il y a aussi beaucoup d'autres pistes qui sont tissées et qui remontent, pour certaines d'ailleurs, à la littérature, à la question de la place de la fiction dans l'analyse historique. Il y a aussi des aspects très épistémologiques où il s'agit dans ce livre d'importer dans le champ de l'histoire, en particulier française, des recherches, des travaux, des réflexions théoriques qui émanent d'autres sciences sociales. La science politique est particulièrement bien traitée, si j'ose dire, dans cet ouvrage, notamment américaine, les relations internationales, la sociologie également beaucoup, l'économie, le droit. Et l'idée des auteurs, c'est de montrer effectivement que le raisonnement contrefactuel est omniprésent, d'une certaine façon, même là où on ne s'attend pas à le trouver. Par exemple, chez Pierre Bourdieu, il est noté que très fréquemment, Bourdieu recours à ce mode de raisonnement. Alors, pour quelqu'un qui est politiste comme moi, qui a une formation de sociologue, c'est à la fois très vivifiant de découvrir la profusion et la richesse d'application du raisonnement contrefactuel, et en même temps, ça renvoie à des choses assez connues, qui sont d'ailleurs présentes dans le livre, et notamment à la figure de Max Weber. C'est-à-dire pour Weber, et c'est d'ailleurs un peu cette veine que reprennent, pas la seule, mais en tout cas à titre principal quand même, les auteurs, c'est le raisonnement contrefactuel, c'est une manière d'éviter l'hyperdéterminisme, quoi, hein, d'expliquer les choses, non pas comme si elles devaient être, après tout, si c'est arrivé, ça ne pouvait pas être autrement, hein, mais de bien reconstituer le champ des possibles, hein, c'est bien effectivement le titre de l'ouvrage. Alors du coup, ça ouvre effectivement plein de perspectives et ça interroge plusieurs choses. La première, c'est est-ce qu'il y a des domaines de connaissances ou d'événements qui sont particulièrement propices à ce type de raisonnement? Alors, on se moque un peu de l'histoire bataille, de l'histoire des guerres, mais on sait, par exemple, et les auteurs s'appuient beaucoup sur des exemples de relations internationales, dans le champ de la stratégie, les acteurs réfléchissent en permanence aux erreurs passées, aux choix passés, et évoquent en permanence des scénarios possibles. Hein. Est-ce qu'on décide d'intervenir, par exemple, en Syrie? C'est une question qui s'est posée en France récemment, en 2013. On a failli le faire, on l'a finalement pas fait, ça aurait pu basculer, bon. Et ensuite, les acteurs en tirent des conséquences. On aurait peut-être dû le faire, donc du coup, le coup d'après...
Que se serait-il passé si nous l'avions fait?
Et du coup, donc, il y a quand même... une première question, c'est est-ce que dans le champ notamment de l'action tactique, stratégique, internationale, c'est pas quelque chose, évidemment, qui est très à la fois utilisé par les acteurs et beaucoup par les chercheurs qui sont sans cesse obligés de se dire, effectivement, on n'avait pas déclaré la guerre, et si on n'avait pas bombardé Hiroshima et Nagasaki, et si... voilà. Donc ça, c'est une première question. Puis deuxième question, qui est un petit peu connexe à celle-là, au-delà de cette question des domaines, c'est qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de votre approche, vous, de la causalité? C'est-à-dire, au fond, est-ce que, ça c'est un des risques, dire que tout aurait pu arriver, en quelque sorte, c'est pas d'ailleurs ce que vous dites, ne risque pas, du coup, de noyer, finalement, la hiérarchie des causes? C'est-à-dire, aujourd'hui, je prends juste cet exemple, une guerre entre la France et l'Allemagne me semble totalement exclue. Alors, la probabilité est infinie. Ça ne veut pas dire que dans 50 ans, il n'y aura pas une guerre entre la France, on ne peut pas le savoir, mais en tout cas, on voit bien que on peut... établir des explications structurelles qui rendent cela impossible. En revanche, quand il y a des événements effectivement imprévus, là, je dirais que le raisonnement contrefactuel devient peut-être plus opérant. Donc voilà un petit peu les deux questions pour lancer la discussion.
Je vais donner
discussion.
Une feuille de papier blanc à nos invités, parce que là, ils prennent des notes sur des enveloppes. Je pense que vous n'aurez pas assez de place. Prenez. Qui veut répondre Merci. À la première et deuxième question? Alors, Quentin Deluermoz.
Oui, je vais essayer de faire du deux en un. Alors tout d'abord, oui, effectivement, il y a des domaines qui spontanément produisent des contrefactuels, sont tous ceux qui sont liés à des choix tactiques, stratégiques, donc l'économie, le militaire, les relations internationales, sont des secteurs, qu'on soit en histoire ou dans les autres sciences sociales, qui depuis très longtemps, en fait, mobilisent des raisonnements contrefactuels, que ce soit ceux des acteurs ou ceux que le chercheur mobilise pour redonner, ça c'est l'idée de Weber, hein. Si vous voulez évaluer correctement le poids d'un événement dans le passé, vous devez faire des contrefactuels. Sinon, pour le coup, tout est plat. Donc, pour redonner du relief aux choses, on a besoin de ce type de raisonnement-là. Maintenant, c'est pas le seul domaine. Nous, ce qui nous a surpris, c'est la diversité des domaines dans lesquels cela pouvait être appliqué. Alors, à un niveau beaucoup plus macro, hein, les grandes analyses de transformation sociale. Si on veut éviter que ces transformations sociales aillent dans un seul sens et deviennent une espèce d'expression de la fatalité, vous avez besoin du contrefactuel. On en trouve beaucoup, par exemple, chez quelqu'un comme Norbert Elias. On en trouve aussi en histoire des sciences, un ouvrage qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Darwin Deleted. Que se serait-il passé si Darwin n'avait pas existé? Est-ce qu'on aurait quand même eu, finalement, des formes de darwinisme social? Donc ça, au fond, ça peut être mobilisé de plein de façons, dans des champs très différents. Ce qui m'amène à la deuxième question. Effectivement, le contrefactuel, on l'associe spontanément à l'imagination, et il y a un usage pertinent de l'imagination en histoire et en sciences sociales. Mais paradoxalement, on est allé à un colloque avec des Allemands, pour eux, le contrefactuel n'était qu'une question de causalité. Dire que c'était un jeu de l'imagination, pour eux, était un non-sens. Alors, je donne juste un exemple pour vous montrer comment ça marche. On dit pendant... C'est un exemple que j'emprunte à Antoine Prout, qui reprend une vieille idée selon laquelle, au fond, la croissance démographique française a été cassée par la Grande Guerre. Il dit, rien que de dire ça, c'est déjà un contrefactuel caché. On suppose que sans la Grande Guerre, d'une certaine manière, la croissance aurait continué. Et il fait le contrefactuel, et il montre en réalité que la France a plutôt bien résisté à la Grande Guerre, contrairement à l'Allemagne. Et là, c'est un exemple d'analyse de la causalité, c'est-à-dire que le facteur Grande Guerre, son impact sur la trajectoire démographique, au fond, est moins grand que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Ce type de contrefactuel dit de causalité sont extrêmement nombreux et peuvent aller vers des formes extrêmement sophistiquées qu'on a évoquées un tout petit peu dans l'ouvrage. Dès qu'on a une relation entre déterminisme et contingence, on a des contrefactuels. Donc ça peut prendre des formes très mathématiques, avec ce qu'on appelle des causalités hétérogènes, multilinéaires, enfin, c'est beaucoup plus complexe à ce niveau-là.
Je voudrais bien comprendre, Quentin Dieu-Luarmoz, par rapport à cette causalité et à l'exemple que vous donnez justement de Pro. Est-ce que c'est considéré que l'histoire a un cours linéaire, naturel, et que des éléments perturbateurs arrivent pour perturber, comme son nom l'indique, ce cours naturel, ou bien, par exemple, quand on dit, on se demande ce qu'aurait été l'Afrique ou le monde sans la traite négrière, on dit, bon, bah, voilà, le monde avançait, le monde suivait son cours, et puis tout d'un coup, la traite négrière est arrivée, ça a perturbé tout le monde, et donc ça a changé la face des choses. Donc, est-ce que c'est considéré dans l'histoire contrefactuelle qu'il y avait un cours naturel des choses qui est venu perturber par un élément extérieur, ou bien l'histoire contrefactuelle, c'est dire, plein d'histoires étaient possibles et nous en avons choisi une. Est-ce que je me fais bien comprendre?
Oui, c'est-à-dire pour reprendre l'exemple évoqué par Quentin, il s'agit en fait d'une étude de cas de Jay Winter qui analyse la surmortalité féminine pendant la Première Guerre mondiale. Et donc en fait, il montre bien que d'abord le concept de surmortalité, comme celui de sous-développement que vous venez d'évoquer, eh bien ce sont des contrefactuels cachés ou implicites. Et donc en fait, Jay Winter étudie au fond les données statistiques dont nous disposons jusqu'en 1914, entre 1900 et 1914, effectue ensuite des projections et démontre qu'au fond, eh ben, l'impact de la Première Guerre mondiale sur le taux de mortalité féminine en France, c'est-à-dire civile, en réalité c'est ça qui l'intéresse, le taux de mortalité des civils en France et en Grande-Bretagne a été très faible, alors qu'il a été très important en Allemagne par exemple. Donc ça c'est vrai que c'est un point très important, ça permet d'identifier au fond des facteurs qui peuvent avoir un impact non pas sur le cours normal de l'histoire, parce que là, le cours normal de l'histoire, on entre dans une vision morale de l'histoire comme science morale, et c'est très prégnant dans le débat sur la traite et l'esclavage, et donc sur le rôle des contrefactuels, justement, dans la mesure, par exemple, des réparations, du montant des réparations et des compensations que l'on devrait offrir aux victimes de l'histoire, aux victimes notamment des préjudices causés par la traite et l'esclavage. Et donc, pour revenir à l'exemple que vous évoquiez tout à l'heure, la notion de sous-développement, elle est contrefactuelle, parce que l'un des premiers à l'avoir utilisé et théorisé, c'est Walter Rodney, dans un ouvrage qui s'intitule précisément « Comment l'Europe a sous-développé l'Afrique ». Et alors, lui, justement, dans une vision très morale, eh bien, il considère qu'en fait, le contrefactuel permet de retrouver l'histoire normale, le cours normal du devenir historique. Hein, donc, il inverse totalement les perspectives. Hein. Et donc, il s'agit pour lui de comparer l'Afrique actuelle, dont l'économie a été totalement distordue, non seulement par l'esclavage, la traite, mais aussi destruction du commerce intra-africain tout au long du XVIIe, XIXe siècle. Il compare cette Afrique actuelle et puis une Afrique contrefactuelle qui n'aurait pas connu l'esclavage. Et ce type de réflexion nourrit depuis les années 1980 tout un tas de campagnes animées par des avocats, des universitaires qui demandent des réparations et qui élaborent des chiffrages très précis pour ces réparations.
Antoine.
Oui, je voudrais savoir si vous notez le succès de ce genre de recherche aujourd'hui, cette histoire dite contrefactuelle. D'ailleurs, sur le terme de contrefactuelle, on pourrait aussi vous poser des questions, savoir d'où vient cette expression plutôt qu'histoire des possibles, par exemple, qui paraît plus parlante et plus directe. En tout cas, est-ce que ce succès aujourd'hui de cette recherche n'est pas lié au fait que précisément aujourd'hui, nous sommes dans la recherche de possibles et dans une situation où on a l'impression qu'il n'y a pas d'alternative et que donc on essaye de retrouver quand même des exemples dans l'histoire, la possibilité de voir que des embranchements existent.
C'est une autre histoire du passé est possible, une histoire du futur est possible, l'un ou l'autre. Quentin de Luermoz.
Alors tout d'abord sur le nom, on a choisi Histoire des possibles précisément parce que ça nous paraissait plus pertinent par rapport à notre projet. On parle d'histoire contrefactuelle parce que c'est le terme qui réunit le plus la grande variété de ce mode de raisonnement qu'a évoqué Frédéric Savicky tout à l'heure. Alors effectivement, il y a des périodes qui sont plus propices que d'autres à l'explosion des contrefactuelles. Pour aujourd'hui, on connaît assez bien les éléments qui sont liés, hein, ce qu'on appelle la fin des idéologies, la perte de la foi dans le futur, les croisements entre réalité et virtualité, tout ceci favorise la multiplication des contrefactuels. Et il n'en demeure pas moins que ce qui est vrai, c'est que dans une période où on a l'impression qu'on est soumis à une espèce de fatalité des choses, hein, on ne peut rien faire contre le capitalisme, on ne peut rien faire contre le management néolibéral, etc., aller rouvrir des futurs dans le passé, ça permet de réarmer, d'une certaine manière, la critique du présent. Soit en rappelant que cette histoire ne s'est pas faite toute seule, qu'elle a été le fruit de choix, de décisions, de rapports de force, de victoires. Hein. Là, on revient à Pierre Bourdieu qui disait qu'il fallait lutter contre l'amnésie des commencements, c'est exactement ça. Soit en rappelant que, pour le coup, d'autres futurs ont été pensés et possibles, et que cette simple mise au jour permet de rappeler que notre propre situation n'est pas le fruit d'une fatalité historique.
Une démarche politique, vous pourriez dire, que vous assumez.
En tout cas, une fonction critique de ce point de vue-là.
Oui, une démarche politique au sens large d'abord du terme, parce que au fond, l'histoire contrefactuelle, lorsqu'elle est réflexive, maîtrisée, contrôlée, elle est forcément politique, puisque le contrefactuel suppose que l'auteur de ce raisonnement intervienne dans le récit. Interviennent explicitement dans le récit, donc se mettent en scène d'une certaine façon, sélectionnent et désélectionnent les points de bifurcation, repensent les liens de causalité. Donc de ce point de vue, ça signifie tout simplement qu'il doit dire d'où il parle. Hein. Et donc évidemment, ça c'est un premier intérêt d'une approche contrefactuelle qui serait réflexive. Ensuite, elle est éminemment politique, puisque comme Quentin l'a dit, rouvrir les futurs du passé, c'est vraiment réarmer notre capacité d'action dans le présent. Et nous ne sommes pas les premiers à le dire. Walter Benjamin a eu cette intuition lorsque justement il parle de l'histoire telle qu'elle existe, à l'histoire des vainqueurs qui, en avançant, écrasent inéluctablement les potentialités inaccomplies du passé. Et donc le rôle de l'historien, selon Benjamin, et c'est ce que nous proposons également d'une certaine façon, c'est de se saisir de ces potentialités inaccomplies, au moins de les questionner. Hein.
Frédéric Savicky.
Oui, alors, il y a quand même... on va introduire un petit peu une discussion plus critique, c'est-à-dire qu'il y a un risque... je ne dis pas que c'est les auteurs qui le souhaitent, mais dans l'usage qui peut être fait, d'ailleurs eux-mêmes ils l'évoquent, hein, l'histoire des possibles, c'est utilisé aussi par des gens qui promeuvent des projets politiques hostiles par exemple au marxisme, hostiles à l'idée qu'il y aurait en quelque sorte des lois de l'histoire, mais enfin des lois, pas forcément des lois évidemment scientifiques absolues, mais enfin des logiques structurelles de domination qui feraient que les gagnants sont un peu toujours les mêmes et les perdants un peu toujours les mêmes, donc qui réhabilitent effectivement l'espèce de liberté individuelle tous azimuts. Hein. On a vu le débat récemment avec autour des interventions de Manuel Valls, c'est pas complètement déconnecté. Donc peut-être que vous gagneriez peut-être à préciser dans le propos quand même que dire qu'il y a des possibles ne veut pas dire que tout est possible. C'est-à-dire que, et qu'il y a cette notion de point de bifurcation, ou de turning point en anglais, qui est très très utilisée par divers auteurs et que vous reprenez à votre compte à juste titre. Il y a des moments, effectivement, dans certaines séquences historiques où les choses
peuvent basculer dans, d'un sens ou d'autre, mais une fois qu'elles ont basculé, il est très très difficile de revenir effectivement en arrière.
J'ai pas compris le rapport avec Marx. Vous voulez dire que ça voulait dire que ça enlevait l'idée des théories qui permettaient d'expliquer l'histoire.
Des théories qui expliquent
qui sont révolutionnaires
aussi. Qu'il y a effectivement des structures fortes qui déterminent le cours de l'histoire, même si elles ne le déterminent jamais complètement absolument. C'est-à-dire que là, on dit au fond, bon, à chaque fois, on peut tout redécoder. D'une certaine façon, c'est une idéologie toute faite pour des hommes politiques.
Du capitalisme.
Voilà, c'est un peu ça. Bon, je force un peu le trait, mais voilà, je ne sais pas ce que vous pourriez dire par rapport à ça.
Oui, alors, on essaie de montrer que l'approche contrefactuelle, elle était politiquement indéterminée, qu'elle était mobilisée aussi bien, c'est très connu, par les historiens néoconservateurs à la Niall Ferguson, qui essaient de revaloriser la contingence en histoire contre le déterminisme, ce qu'ils appellent le déterminisme marxiste. Et en même temps, depuis très longtemps, les théoriciens révolutionnaires, depuis Marx, Blanqui, jusqu'à Slavoj Žižek, ont réutilisé cette approche contrefactuelle. Mais j'aimerais, peut-être qu'on pourra revenir là-dessus, mais j'aimerais dès maintenant quand même souligner le fait que l'approche contrefactuelle et l'histoire des futurs possibles ne s'appliquent pas seulement à la question de l'événement et du point de bifurcation. Il y a des analyses de type structural. Et je peux donner un exemple très rapide parce qu'il s'agit là d'un contrefactuel qui peut sembler décalé. C'est un contrefactuel de type quasi géologique ou du moins préhistorique. C'est celui de Jared Diamond qui évoque la question de la domination occidentale dans les Amériques, en fait. Et il explique qu'en fait, tout s'est joué au Pléistocène. Au Pléistocène, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, lorsque, en fait, eh bien, les mammifères ont disparu. Il explique que si les mammifères n'avaient pas disparu en Amérique, eh bien, ils auraient été domestiqués par les Aztèques, ils leur auraient fourni un moyen de transport. Ils auraient aussi immunisé ces populations contre ensuite la variole qui va les décimer avec l'arrivée des Espagnols. Et en plus, il leur aurait fourni des protéines. Bon, et donc il explique que si les mammifères, les gros mammifères avaient subsisté, eh bien en 1519, la cavalerie aztèque aurait non seulement repoussé Cortés, mais aurait ensuite conquis le monde au 19e siècle, et notamment conquis l'Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout simplement, selon Jared Diamond, le sort de l'Europe et de l'Amérique ne se joue pas au 16e ni au 19e, mais se joue au Pléistocène il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Voilà, donc là on a un contrefactuel structural qui nous démontre quoi? Qui en fait attire l'attention de l'historien précisément et du sociologue, qui a les yeux rivés sur le temps présent ou le contemporain, qui est sur des facteurs qui lui échappent bien souvent, c'est-à-dire l'environnement, la très très longue durée.
Quentin de Luermoz.
Oui, alors Pierre a raison. Ce qui nous avait surpris, c'est que le contrefactuel est mobilisé par n'importe quelle option politique, parce qu'il est lié à la relation entre la liberté et la fatalité. Donc vous pouvez avoir des contrefactuels qui prônent la liberté, d'autres qui au contraire l'utilisent pour prouver la détermination absolue d'une trajectoire. Maintenant, pour répondre à la question, la deuxième question, les sociologues, les politistes, les historiens étudient de plus en plus ce qu'ils appellent des espaces de possibles, l'espace de contraintes et de possibles. C'est-à-dire qu'on, pendant très longtemps, on a eu une histoire qui était plutôt structurale. Après, on s'est rendu compte que les acteurs avaient une marge de manœuvre. Et on essaie de trouver la relation entre les deux, entre les déterminations sociales et les marges de manœuvre des acteurs. Et dès qu'on fait une analyse en termes d'espace de contraintes et de possibles, c'est-à-dire où là, on n'enlève rien à la réalité des dominations sociales, on est obligé de mobiliser des contrefactuels si on veut explorer un petit peu les voies offertes, même si elles sont en nombre limité, à un individu. Alors c'est très célèbre, par exemple, dans les analyses sociologiques sur les trajectoires délinquantes, où ils montrent que dans une vie délinquante, il y a toute une série de turning points, qu'à chacun d'entre eux, il y a un certain nombre d'opportunités qui sont disponibles et que celles-ci sont forcément limitées par la réalité du marché du travail. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux, c'est-à-dire qu'il s'agit d'étudier des possibles saisis dans les contraintes des situations dans lesquelles ils se déploient.
Frédéric ?
Oui, c'était ça que je voulais qu'il précise, parce que une lecture un petit peu au pied de lettre pourrait effectivement, c'est un peu le point de vue que vous évoquez de certains, disons, idéologues, qui parlent de chaosistry. Tout ne serait que chaos d'une certaine façon. Tout n'est pas que chaos, c'est-à-dire qu'il y a bien effectivement un espace des possibles. On pourrait du coup réinterroger pas mal d'événements ou de phénomènes contemporains, que ce soit en sciences politiques, on s'est beaucoup penché par exemple exemple, sur la décision de 83 de ne pas sortir du système monétaire européen. Bon, ça a entraîné effectivement ce choix effectif, hein, il y a les options, a entraîné ensuite tout un certain nombre d'autres décisions qui ont progressivement effectivement restreint l'espace des possibles.
Je comprends bien la démarche, qui est absolument passionnante d'ailleurs, mais une fois que le fait est passé, 1983, c'est il y a 30 ans, bon. Une fois que le fait est passé, que ces choix ont été faits, à quoi bon dire on aurait pu faire autrement, et si, quoi. Si
on bon, vous voyez ce que je
veux dire. Oui, mais puisque ça a été fait, alors réfléchissons à partir d'aujourd'hui à toutes les possibilités que nous avons pour l'avenir. Mais s'il fallait en plus, il faut reprendre tout le passé pour mieux le penser le présent, on n'en sort plus.
Vous êtes
déjà,
historienne,
on sait pas comment
Caroline, c'est pour ça que vous êtes.
Mais justement, ça s'adresse aussi, je pense, à nous citoyens, puisque vous montrez que l'un des intérêts de cette démarche contrefactuelle, c'est sa dimension participative. Vous rappelez l'expérience d'une écriture collective de l'histoire menée à Grenoble en 2011. Et le formidable appétit du public non historien, précisément. Ce n'est pas seulement pour l'historiographie.
Oui.
Alors, Quentin Dumermoz.
Alors, je vais rebondir directement sur le j'ai oublié le premier point.
Je peux
rebondir sur le premier point.
Une fois que c'est passé, la réponse sera forcément courte parce que nous manquons de temps, mais le premier élément de réponse, c'est un surcroît de réflexivité. Il s'agit pas, encore une fois, de rédiger, d'imaginer des histoires alternatives, mais tout simplement, par exemple, lorsqu'on est littéraire ou qu'on est historien ou sociologue de la littérature, s'intéresser aux textes possibles. C'est Marc Escola, par exemple, qui travaille sur ces questions-là. Ou encore, à l'image de Benjamin Wurgaft, imaginer des biographies possibles. Alors, c'est le cas, il a étudié toutes les biographies qui ont été écrites, les biographies de Walter Benjamin. Imaginez ce qui se serait passé s'il ne s'est pas suicidé en 1940. Ça n'a aucun intérêt, si vous voulez, du point de vue historien. En revanche, ça permet tout simplement aux auteurs de mettre à distance leur engagement personnel. Ça permet d'identifier au fond les attentes personnelles des biographes, leur rapport au passé, leur rapport très sélectif au passé et leur rapport très personnel à Benjamin en l'occurrence.
Et sur la dimension participative, Quentin Dullermoz ?
Oui, alors je me rappelle ce que je voulais dire au début. Rebondir sur ce que vient de dire Pierre, ce que dit un philosophe comme Paul Ricoeur, c'est qu'au fond, c'est une définition très pauvre du passé que de penser qui ne se limite qu'à ce qui est effectivement arrivé. Tous ces possibles, d'une certaine manière, enrichissent notre mémoire et font partie des choses avec lesquelles on vit notre présent. Alors, pour la dimension participative, c'est le deuxième élément très important de cet outil contrefactuel, c'est que ça permet de sortir un petit peu de l'opposition entre l'historien qui serait un expert et du public qui serait un non-expert. C'est-à-dire que dans la mesure où on invite le public à prendre part au raisonnement et à formuler ses propres raisonnements contrefactuels, une dimension participative extrêmement forte, et un espace qui est à la fois un espace de jeu, d'échange et de discussion, où d'une certaine manière, on peut commencer à jouer sérieusement avec l'histoire, et le public parvient à recomposer lui-même des raisonnements historiques, qui sont parfois ceux des historiens, et à découvrir d'une certaine manière qu'il est riche de raisonnements historiques qu'il peut lui-même mobiliser avec les historiens. Ça peut prendre deux formes, soit celle de l'enseignement, soit celle du partage d'informations avec un public. Dans le cas de l'enseignement, l'étudiant joue avec le savoir et l'apprend mieux. Dans le cadre du partage, on peut discuter ensemble de ce qu'est l'histoire.
Alors certains jouent sérieusement avec l'histoire, d'autres ont joué sérieusement avec la musique, c'est votre choix musical. Les ricains, ou plutôt si les ricains n'étaient pas là.
Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie. Vous savez aussi bien que moi qui a osé dire cette connerie. En fait, ça serait peut-être un peu mieux. On serait champion du monde de foot. On serait tous blonds aux yeux bleus. On boufferait des super choucroutes.
C'est une parodie, hein. C'est Renaud.
Oui, c'est Renaud qui, à la fin des années 70, à l'occasion d'un concert à Bruxelles ou en Belgique, moque au fond la mode des histoires alternatives, dont cette chanson de
Michel Sardou.
De Michel Sardou, les ricains.
À affronter nos flics, fait, ça serait peut-être pas plus con. Mick Jagger serait peut-être mon voisin de palier. Et au tournoi des cinq nations, on serait peut-être pas toujours dernier.
Merci à tous les deux, Quentin Deluermoz et Pierre Singara-Vellou, pour Une histoire des possibles, un livre édité dans la collection L'Univers historique des éditions du Seuil. Merci beaucoup à vous, Frédéric Savicky, d'être venu à nouveau au micro de La Grande Table. La Grande Table, c'est Raphaël Bourgois, Clémence Marie, Jeanne Aléos, Henri Leblanc, Antoine Sims à la réalisation. Aujourd'hui, c'était David Jacuboviez. Et à la prise de son, Yanis Djouda. Toute cette émission est bien sûr réécoutable et podcastable sur le site franceculture.fr à la page de La Grande Table.